Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Now, wait a minute. Do you realize what you're saying?
Oh, I know what I'm saying.
Bonjour à tous. L'Islande, souvent présentée comme le pays le plus paritaire du monde, se dote d'un nouvel outil pour faire progresser l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Un organisme va délivrer dès cette année des certificats de conformité aux entreprises de plus de 250 salariés et aux administrations publiques qui jouent le jeu. La charge de la preuve est désormais inversée. Ce ne sont plus les employés qui doivent prouver qu'ils sont discriminés, mais l'employé qui doit démontrer que s'il y a des différences de salaire, la question du genre n'entre pas du tout en ligne de compte. Reportage dans une grande entreprise de Reykjavik, signé Jérémy Richard.
Située en plein centre de la capitale Reykjavik, Landsbankinn est la plus grande banque islandaise, détenue à plus de 98% par l'État après sa nationalisation en 2008 suite à la crise financière. Elle compte presque un millier de salariés et parmi eux, Elisabeth Björnsdottir, une longiligne brune d'un mètre 85 qui s'occupe de la trésorerie et se réjouit de la mise en place de la loi.
Je suis clairement pour, même si j'ai été assez chanceuse pour ne pas ressentir de différence de salaire par rapport à un homme. Je pense d'ailleurs que c'est dur de l'apercevoir et que c'est pour cela que c'est compliqué de s'y attaquer car ce n'est pas si évident sur le papier. Si on regarde les études récentes, elles montrent qu'il y a bien un écart de salaire et qu'il n'a pas vraiment bougé. Donc il s'agit d'un outil intéressant et utile que nous pouvons utiliser pour essayer de l'éliminer.
Concrètement, près de 1200 entreprises islandaises, publiques ou privées, de plus de 25 salariés vont devoir passer un audit dans lequel les différences salariales devront toutes être explicitement justifiées par le niveau de stress du poste, la valeur ajoutée de l'employé, son ancienneté ou encore son niveau de formation. Un système lourd à mettre en œuvre. Lilja Einarsdottir, directrice générale de Landsbankinn, reste enthousiaste.
C'est vraiment un pas vers l'égalité homme-femme, même si la loi nous impose un certain nombre de contraintes techniques. Mais ce n'est pas un effort vain, c'est bon pour nous. Je pense que ça va nous aider pour la prochaine étape, à savoir non pas si nous payons équitablement en fonction du genre, mais si nous évaluons les postes différemment. La loi ne saisit pas cet aspect, mais je pense que ce sera un guide utile.
Selon ses estimations, la banque islandaise devra dépenser l'équivalent de 120 000 euros pour se mettre en règle et obtenir une certification délivrée par un organisme indépendant valable 3 années avant renouvellement. Un coût, certes, mais nécessaire pour Baldur Jonsson, responsable des ressources humaines chez Landsbankinn.
Si la loi ne nous y obligeait pas, je pense qu'on continuerait à faire les choses telles que nous les faisons aujourd'hui et l'écart ne serait toujours pas comblé dans 10 ans. On parle d'égalité salariale homme-femme depuis au moins 2 ou 3 décennies. On a fait quelques progrès en cours de route, mais ils ont été lents.
Car si en 2017 et pour la 9e année consécutive, l'Islande est le pays le plus paritaire du globe, selon le classement du Forum économique mondial, l'écart de salaire entre hommes et femmes subsiste, 16,1% en 2016 d'après l'Institut statistique national. Pourtant, l'égalité salariale a force de loi dans le pays depuis 1961. L'ancien ministre des Affaires sociales, Thorstein Wiglundsson, est à l'origine de la proposition fin mars dernier.
Parfois, il faut une initiative juridique pour vraiment insuffler un élan dans les réformes. L'idée de la nouvelle loi, c'est d'inverser la charge de la preuve. L'entreprise doit prouver qu'elle ne fait pas de discrimination envers ses employés. Bien sûr, cela peut être critiqué de renverser la justice comme ça, mais c'est une question de droits humains. À travail égal, salaire égal.
La législation a été approuvée par le Parlement à près de 80% le 1er juin dernier. Parmi les opposants, le parti pirate, dont 7 députés sur 10 ont voté non. Système trop contraignant, trop coûteux et qui, paradoxalement, permet désormais aux entreprises islandaises de disposer de critères objectifs pour justifier les écarts de salaire. C'est là que le bât blesse, dénonce Björn Gunnarsson, parlementaire pirate.
Tous les facteurs responsables des écarts de salaire seront désormais expliqués. Mais pour moi, ça ne va pas régler le problème. Ça va juste donner des éléments pour comprendre. Mais ça ne va pas supprimer les différences de salaire.
L'association islandaise pour le droit des femmes abonde. Brynhildur Hómarsdóttir en est la directrice exécutive.
Je ne suis pas si optimiste que cela sur le fait d'éliminer l'écart salarial entre les sexes. Nous aurons toujours les mêmes problèmes. Les femmes travaillent à temps partiel et leur travail tend à être moins bien rémunéré en moyenne que les hommes. La loi ne fait rien pour changer cela. Mais c'est une part cruciale dans la lutte pour l'égalité des sexes. Et j'espère bien que nous serons en mesure de résoudre ce problème d'ici un siècle.
L'expérience islandaise aura au moins un mérite, la transparence des salaires.
Comment inciter les citoyens à mieux trier les déchets ? Istanbul a trouvé une solution innovante. Dans cette mégapole de 15 millions d'habitants, chaque bouteille, chaque carton récupéré génère un crédit sur son titre de transport municipal. La technologie au service de l'environnement, c'est ce que nous explique Anand Lahouar.
C'est ce qu'on appelle une bonne idée, et peut-être même, avec un peu de bonne volonté, un début de solution au problème de déchets de la plus grande ville turque. Istanbul, qui abrite au bas mot 15 millions d'habitants, produit en moyenne 17 000 tonnes d'ordures ménagères par jour. Les Stambouliotes ne trient pas leurs déchets, ou si peu. La collecte laisse à désirer dans certains arrondissements et les infrastructures dédiées ne suffisent tout simplement pas à recycler toutes ces poubelles. Résultat, seul un peu plus du tiers des déchets ménagers, soit quelque 6 000 tonnes par jour, sont traités dans les centres de collecte et de recyclage. Le deal que la mairie d'Istanbul propose à ses administrés est simple. Payer moins cher leurs déplacements en échange d'un coup de pouce au recyclage de leurs déchets. En ce début d'année, d'étranges appareils font leur apparition aux arrêts de bus et autres embarcadères de la mégapole. Avant de monter dans son métro, tramway, bus ou vapour, le nom qu'on donne en turc aux bateaux qui transportent les Stambouliotes d'une rive à l'autre du Bosphore, avant d'emprunter un transport en commun donc, l'usager aura pris soin de déposer sa bouteille en plastique ou une boîte de conserve ou n'importe quel autre déchet dans la machine en question et d'y placer aussi sa carte de transport appelée Istanbul Card. La machine créditera alors sur la carte de transport la valeur estimée du déchet qui lui est confié et ainsi, poubelle après poubelle, centime après centime, réduira le coût des trajets de son propriétaire. Évidemment, les appareils disposent d'une interface électronique capable de reconnaître les déchets recyclables et ceux qui ne le sont pas. Inutile de tricher. La machine sait identifier les ordures en métal, papier, verre et plastique à travers des capteurs, les trier, les déchiqueter, puis les stocker. Dans un premier temps, 25 appareils seront installés sur les trajets les plus fréquentés. Leur nombre devrait passer à 100 d'ici la fin de l'année.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Yes, that tune.
Pour les éleveurs, c'est une bombe à retardement. Depuis la fin des quotas laitiers, la surproduction laitière menace constamment le marché. Pour éviter une crise et un effondrement des cours, la Commission européenne a racheté de la poudre de lait. 380 000 tonnes sont donc stockées dans des hangars en attendant le moment propice pour être écoulées. L'association de producteurs laitiers European Milk Board, qui milite contre la fin des quotas, organisait la semaine dernière la visite de ces hangars. Alice de Batty de la RTBF s'est rendue dans l'un d'eux à Herstal, près de Liège.
Nous sommes dans l'un des 7 centres de stockage de la région wallonne. Devant nous, des palettes de sacs de 25 kg de lait en poudre s'empilent sur plusieurs mètres. Au total, 12 500 tonnes sont stockées ici. C'est assez impressionnant. Erwin Schopgus, producteur belge et président de l'European Milk Board, en attraperait presque le tournis.
Je m'attendais un peu à ça. Mais après, tu vas ici à droite, tu regardes à gauche, tu regardes vers l'avant, les sacs, les poudres de lait. Et tu dis, est-ce que c'est mon lait, il est ici stocké? Est-ce que moi, je suis responsable, moi-même, avec mon exploitation, est-ce que moi, je suis responsable de cette poudre de lait qui est ici?
Ce stock illustre la politique européenne après la libéralisation du marché du lait. Depuis la fin des quotas, on est en situation de surproduction. Alors la Commission rachète du lait pour éviter que les prix baisse. En Belgique, ce sont les régions qui s'en occupent. Bernard Hennuy, inspecteur général au département agriculture de la région Wallonne, connaît bien la marche à suivre.
C'est l'administration qui est responsable de la mise en place des systèmes, de faire des adjudications pour avoir des entrepôts qui se proposent, d'acheter les quantités avec les différents fournisseurs. Ici, c'est les deux laiteries wallonnes qui sont essentiellement fournisseurs par rapport à ce système. Et nous devons contrôler également, donc il y a des effets de contrôle à l'entrée pendant la conservation et la sortie. Et alors nous devons payer, bien sûr, donc un rôle financier de banquier.
La région wallonne attend ensuite le feu vert de l'Europe pour les revendre. Et c'est à ce moment-là qu'elle récupère son investissement. Jean-Luc Cuvelier est directeur de l'organisme chargé d'acheter le lait en poudre pour la Commission.
Si le prix de vente est supérieur au prix d'achat, la région wallonne donnera la différence à la Commission, puisqu'elle est propriétaire de la marchandise. Si le prix de vente est inférieur, la Commission remboursera à la région wallonne le montant en surplus payé.
Est-ce que ça arrive souvent que ce prix de vente soit inférieur ?
Tout dépend de la situation du marché, du moment où ils vendent. Moi, personnellement, j'ai connu les deux situations. Nous avons vendu avec un grand avantage. Et cette fois-ci, nous vendons à perte actuellement.
Erwin Schopgus dénonce cette vente à perte, mais aussi des frais de stockage trop coûteux.
Les frais de stockage, c'est 10 millions d'euros pour 2017. Je pense que si vous êtes consommateur, si vous êtes citoyen et vous voyez, vous êtes chef d'entreprise et vous avez un patron qui gère votre entreprise comme ça, je suppose que votre patron il va bien tirer les bonnes mesures avec votre façon de travailler.
Au total, 380 000 tonnes de poudre de lait patientent dans les greniers européens. Pour la Commission, ce système d'intervention est un filet de sécurité, mais pour les agriculteurs rassemblés ici aujourd'hui, il se transformerait en une épée de Damoclès. Une fois vendu, ces volumes pourraient peser sur le marché et mettre en péril l'évolution positive du prix. Boris Gondouin est producteur de lait en France et membre de l'European Milk Board. Il parle d'une véritable catastrophe.
Les prix, certes, ont remonté quelque peu en 2017, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. C'est loin d'être déjà au niveau des coûts de production, déjà ça c'est sûr, mais donc là, on sent déjà que la production a commencé à augmenter début 2018. Et si ce stock arrive sur le marché, ça va être proprement dit une vraie catastrophe. Il va y avoir encore plus surproduction.
Pour éviter cette surproduction, l'association propose aujourd'hui un programme de responsabilité face à la crise. Boris Gondouin nous explique.
Il y aura une agence de surveillance qui va regarder vraiment bien le marché, comment il se comporte par rapport à la consommation. Et par rapport à ça, il y aura un indice qui sera fixé. Si le prix a baissé de 15% de l'indice, eh ben là, on dit carrément aux agriculteurs, ben vous avez la possibilité de réduire, monnayant une prime. Et cette prime sera payée par ceux qui ne voudront pas diminuer, parce qu'on sait très bien qu'il y en aura. Donc ça va être un peu le jeu de pollueur-payeur.
Il réclame donc un outil de régulation du marché européen. La Commission européenne avait déjà testé en 2016 ce type de mesure pendant une très courte période, mais depuis, plus rien. Pourtant, selon les agriculteurs, la situation est plus que préoccupante. Il faut trouver au plus vite des mesures pour faire coller l'offre à la demande.
La guerre dans l'Est de l'Ukraine a mis leur enfance entre parenthèses. Pour renouer avec la part de rêve qui leur a été volée, 13 enfants du Donbass ont monté un spectacle de théâtre. Leur ville, fondée par des colons allemands au XVIIIe siècle, avait autrefois pour nom New York, de quoi fantasmer sur un ailleurs plein de promesses. Sébastien Gobert les a suivis à Kiev où ils étaient venus jouer leur pièce.
Un enfant déguisé en petit lutin à fourrure danse autour d'un adolescent en train d'enfiler un vêtement de femme. Rejoint par d'autres figurants, il simule une parade déjantée de la Malanka, la fête traditionnelle qui marque le nouvel an orthodoxe. Cette scène, les jeunes acteurs l'ont déjà jouée dans leur ville de Novorossiysk, dans le Donbass, au plus fort des bombardements de l'hiver 2014-2015. La pièce de théâtre « Lettre à un ami inconnu de New York » est un spectacle qui entraîne le public à travers les vestiges sombres de la guerre. Là, on voit un salon au mur défoncé par un bombardement. Ici, c'est une cave transformée en abri anti-bombe. Là encore, une galerie de mines de charbon, un des symboles du Donbass, ce bassin minier et industriel en guerre depuis 2014. Angelina Pilipenko est la directrice de la Maison de la Culture de Novorossiysk. Elle accompagne les jeunes dans leur parcours personnel et artistique.
Vous savez, nous vivons dans la zone grise, la zone de guerre. Et les enfants racontent leur vie quotidienne, leurs émotions, leurs inquiétudes, leurs histoires, comment ils vivaient avant la guerre, comment ils vivent depuis le début du conflit. Ce ne sont pas des histoires romancées ou dramatisées. Il s'agit vraiment de leurs histoires personnelles, comment ils survivent à la situation.
Chez nous, les gens sont plus solides que l'acier, assure un dicton du Donbass. Pour ces jeunes, il a fallu très tôt confronter le proverbe à la réalité. Dans leur récit, pas de politique, pas de rancœur, pas de nationalisme revanchard. Ils se contentent d'expliquer avec leurs mots comment leur enfance a été brusquement interrompue et l'affection qu'ils éprouvent pour leurs amis, leur communauté et leur ville. Novhorodske, anciennement nommé New York. Le nom New York est une source de fierté pour ces jeunes. Une scène décrit l'histoire atypique de la ville, de ses fondateurs allemands et de ses industries de pointe. Une autre scène de cabaret reflète l'optimisme de ses enfants et adolescents, enthousiasmés par la célèbre chanson de Frank Sinatra. Mais quand ils reviendront chez eux, dans le Donbass, les seules lumières qui s'offriront à eux seront celles de Gorlovka, un bastion des séparatistes pro-russes de l'autre côté de la ligne de front. De quoi s'interroger sur le futur de ces jeunes Ukrainiens. Angelika Pilipenko.
Pour les enfants, je ne vois pas de perspective pour eux dans notre région. Tous les jeunes partent pour les études ou pour le travail. Il y a un futur en Ukraine, mais pas chez nous pour l'instant.
La pièce de théâtre prépare les acteurs à un avenir imprévisible. L'avenir de ces enfants peut être ici ou ailleurs. L'important est qu'ils aient compris leur passé et pensé leurs blessures. Comme le dit la chanson, New York, si je peux réussir ici, je peux réussir n'importe où.
Stalin's dead.
La bande-annonce et le film La mort de Staline ne passeront donc pas dans les salles de cinéma en Russie. Ainsi en ont décidé les autorités russes. Cette comédie satirique réalisée par le Britannique Armando Iannucci est donc censurée. On retrouve à Moscou notre correspondant Daniel Valo. Bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer, Daniel, cette interdiction ?
Eh bien parce que ce film, il raconte de manière totalement burlesque la mort de Staline et la lutte de succession qui a ensuite déchiré son entourage. Le film est complètement loufoque, il tourne en ridicule les dirigeants communistes de l'époque qui étaient également les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, Staline bien entendu, mais aussi le maréchal Joukov. C'est ce qui a déplu à un certain nombre de responsables politiques et culturels russes et c'est ce qui a justifié sans doute la censure du film. Alors le facteur déclenchant semble avoir été une pétition diffusée par des personnalités russes contre le film. Parmi ces personnalités, le cinéaste bien connu Nikita Mikhalkov. Cette pétition affirme que ce film est une insulte et un crachat aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. En Russie, le culte patriotique de la mémoire de Stalingrad et de la lutte contre les nazis a atteint visiblement un tel niveau qu'un film parodique devient, aux yeux de certains et aux yeux des autorités, absolument insupportable.
Et puis parmi les arguments avancés par les détracteurs du film, il y a l'approche du 75e anniversaire de la bataille de Stalingrad.
Absolument. Et puis il y a également le contexte de la campagne électorale avec l'élection présidentielle du 18 mars. Il y a également sans doute la volonté de plus en plus marquée des autorités russes de contraindre, de contrôler le monde artistique et culturel. Cela se traduit par par les difficultés pour sortir en salle ou pour trouver des financements, des films qui pourraient déranger la mémoire ou l'image de la Russie. Parallèlement, le gouvernement russe met tout en œuvre pour promouvoir les films russes qui auraient une résonance patriotique. Ces films-là, non seulement ils sont autorisés, mais le gouvernement fait le maximum pour qu'ils aient du succès à tel point qu'il s'immisce parfois dans les dates de sortie de ces films pour éviter qu'un film russe de cet acabit puisse être gêné par un blockbuster américain. Alors évidemment, avec l'interdiction de la mort de Staline, on passe au niveau supérieur, celui de la censure pure et simple. Pour autant, le ministre russe de la Culture, qui a décidé de retirer la licence du film, assure contre toute évidence qu'il n'y a pas de censure en Russie, mais simplement une limite entre la critique de l'histoire et sa parodie.
Merci Daniel Valo à Moscou. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité. À demain.